des livres plein les oreilles. Salut à vous toutes et vous tous qui nous écoutez peut-être en balado, peut-être via CKVL ou évidemment via Canal M qui produit cette émission animée et réalisée pour vous par Clotilde Seille. Je pense que ces deux-là sont des bons copains, à moins que ce soit carrément des amis. Je sais pas. Oh, puis on s'en fout. Ce qui est important dans cette émission, c'est de savoir que l'un a écrit les mots que l'autre a lus. Je reçois Patrick Senecal et Normand Damour. Patrick Senecal qui a réussi le pari de faire ce qu'il sait très bien faire depuis des années pour les adultes, faire peur, mais aux enfants, qui plus est, faire peur avec des personnages qui au départ n'ont rien d'effrayant. Père Noël, le lapin de Pâques, la fée des dents, tout ça. Alors j'ai lu, j'ai entendu, je suis convaincue par 7 comme 7 heures, le titre du bouquin en question, désormais au catalogue de Vues et Voix, lu par Normand Damour. Ensuite, nous aurons droit à une chronique de Claudia Larochelle qui va tourner autour du livre de Madame Harry Potter elle-même, J.K. Rowling, au sujet de son petit dernier, enregistré désormais en français. Enfin, et puis à la toute fin de l'émission, je voudrais revenir sur la mort de John le Carré. Oui, je sais, ça fait déjà pas mal de semaines qu'il est décédé, mais il faut que je vous dise que j'ai préparé cette émission-là avant les fêtes, alors qu'on recommence à se reconfiner. Je suis quasiment la dernière ici dans les bureaux, après il n'y a plus personne. Et cette émission-là sera diffusée bien en janvier ou quelque chose du genre. En ce qui concerne 7 comme 7 heures, j'ai lu entre autres les commentaires d'une institutrice française qui elle-même a lu à ses élèves ce bouquin. Et les petits Français ont du coup appris que la fée des dents à nous, eh bien c'est leur petite souris à eux.
Connais-tu la petite souris? Elle passe le soir dans ton lit pour chercher tes dents de lait. Caché sous ton gros oreiller. Petite souris, petite chipie, viens vite te voir sur mon lit. Petite souris, petite coquine, tu trouveras mes petites canines. Elle n'aime pas les dents sales, n'oublie pas de les brosser. Le matin et le soir c'est génial, si elles sont blanches alors c'est gagné. Petite souris, petite chipie, viens vite te voir sur mon lit. Petite souris, aux enfants sages, elle fait des surprises, cadeaux, pièces et petites bises. Petite souris de nuit, merci pour tes présents, c'est joli. Petite souris, petite chipie, viens vite te voir sur mon lit. Petite souris, petite coquine, tu trouveras mes petites cadeaux. Petite souris, petite chipie, viens vite te voir sur mon lit. Petite souris.
Bonjour messieurs, bonjour Patrick Senecal et bonjour Normand Damour.
Bonjour, bonjour. Salut.
Ça va bien Patrick, c'est votre deuxième fois ici, re-bienvenue, bon bien sûr par téléphone, pour les raisons que nous savons. Normand Damour, c'est une première, bonjour Normand, ravi.
Bonjour, bonjour.
Alors, généralement... Lorsqu'on parle de Patrick Senecal, on sait de quoi on va parler, on sait qu'on ne va pas faire dans le roman d'amour, on sait qu'on va faire dans le roman d'épouvante. Mais honnêtement, quand on m'a dit que Patrick Senecal allait marier épouvante avec jeunesse, je ne voyais pas comment c'était possible. Mais je me suis laissée berner comme cette institutrice dont je parlais un petit peu plus tôt. Vous, vous y avez cru tout de suite que vous pouviez faire peur aux enfants sans que ce soit totalement... sans avoir la DPJ aux fesses ou...
mais vous savez que je suis quand même pas le premier auteur qui fait des
programmes
pour enfants, pour enfants, mais j'avoue que la motivation... Je pense qu'il y a 20 ans, on m'aurait dit ça, j'aurais dit non, ça sera pas possible. Ah. Mais ma première motivation, ça a été mes enfants, en fait, parce que ça fait quand même un moment que j'ai écrit ça, ce roman-là.
Okay.
Puis mon fils avait 8 ans à ce moment-là, il y en a 22, imaginez-vous, ça ne me rajeunit pas.
Okay.
Ouais, c'est comme ça. c'est comme ça.
Okay, okay.
Il avait 8 ans, puis il voulait lire mes romans, alors j'ai dit non. Il n'y en a pas de question, évidemment. Puis là, il était un peu frustré. Il a dit, pourquoi tu n'écris pas des romans pour nous? Pour nous étant lui et sa sœur. Fait que là, évidemment, quand tes enfants te disent ça, c'est difficile de pas répondre à l'appel. Fait que je me suis dit, comment je pourrais faire pour écrire des romans pour mes enfants? Mais tout en m'amusant, en n'ayant pas l'impression de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire.
Non, c'est
les deux conditions, je les ai trouvées assez vite. Il faut que je reste dans le roman noir et il faut que je mette en vedette mes enfants. Puis c'est pour ça que Nat et Rome, dans le fond, dans les deux romans, comme 7 heures, c'est Nat et Rome, c'est Nathan et Romy, en fait. Ce sont mes enfants. Qui sont. Alors, grâce à ça, j'ai trouvé mon compte. Puis je me suis rendu compte que même si c'est pour enfants, écrire une histoire, c'est la même structure. Je me suis préparé de la même manière. J'ai usé les mêmes trucs, les mêmes effets narratifs.
Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs, Patrick? Est-ce qu'il y a des fois où vous vous dites « Non, ça, je peux quand même pas aller jusque-là. C'est peut-être
Non? Parce que tu te mets ton imaginaire, quand tu t'adresses à des enfants, ton imaginaire se met tout de suite sur... Vous savez, un chemin de fer, là, qu'on peut... On tire une espèce de levier, puis la traque change, là. La traque une autre direction. Mm. On dirait qu'automatiquement, j'ai comme activé ce levier-là dans ma tête, puis c'était comme pas possible. T'sais, j'ai jamais eu le goût de dire « Ah, j'aimerais ça que Nathan se ressente la tête par le méchant. » Non, ça m'a jamais tenté. J'ai pas eu à résister à cette idée-là, parce que on n'allait pas là. Mon imaginaire n'allait pas là.
Mais est-ce que c'est venu rapidement, Patrick, pardon encore de vous interrompre, mais justement, l'idée de ces personnages sympathiques, de les transformer en pleutres, ça vous est venu comme ça? Vous avez dit « Ah, voilà l'idée! »
Ben, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que quand on écrit quand on veut faire peur aux adultes, on veut créer l'horreur chez l'adulte, il faut prendre des choses qui, normalement, les sécurisent et qui deviennent menaçantes. Alors, je me suis dit, pourquoi pas la même chose avec les enfants? Puis, ce qui sécurise les enfants, ben, c'est le Père Noël, c'est la fédération, c'est la peine de pâte.
Normand?
Excuse-moi, Pat, mais je voulais juste poser une question à Pat. Quand tu leur racontais des histoires à tes enfants quand ils étaient plus jeunes, mais pas des histoires dans les livres, mais des histoires inventées, est-ce que tu utilisais ce genre d'histoire-là dans ton imaginaire ou tu leur faisais une autre sorte d'histoire qui n'était pas nécessairement épeurante?
C'était pas nécessairement épeurant. Non, c'était pas nécessairement épeurant. Ce qu'il demandait, c'est drôle que tu dises ça parce que je me rappelle très bien. C'est surtout Sophie qui le racontait des histoires parce qu'elle disait « Laisse-moi ça, là. Toi, t'es l'écrivain de la famille, là. Laisse-moi le raconter des histoires. » Mais il nous demandait toujours, puis quand c'était moi, il me demandait la même chose. Il voulait toujours, Nathan surtout, il voulait toujours des histoires avec des méchants puis une histoire d'amour. Il fallait toujours qu'il y ait les deux. Ah. Fait que, évidemment, j'allais pas dans l'épouvante trop. Il était quand même tout petit. Mais j'improvisais, là. Puis oui, il fallait qu'il y ait de l'action. Tu sais, les enfants, ils aiment ça avoir peur, là. C'est comme les adultes. C'est juste qu'il faut savoir où on peut aller. Exactement.
Mais oui, c'est sûr.
Ma blonde psychologue, qui connaît bien la psychologie des enfants, m'a dit, tu sais, elle dit, tu peux aller assez loin dans l'imaginaire avec les enfants. La limite que tu dois te donner, c'est qu'il faut qu'au bout du compte, tu montres que les enfants sont plus forts que leur peur. Alors, c'est un peu ce qui arrive dans cette histoire-là.
Ils
sont plus forts que leur peur.
Absolument. Puis vous savez, moi, j'ai le souvenir, quand j'étais petite, ce qui m'a fait faire des cauchemars, mais des cauchemars énormes pendant des semaines et des mois, ce sont les deux chats c'était dans les 101 dalmatiens ou c'était en tout cas...
Les
chats siamois, là, quand ils descendent l'escalier, là. Écoutez, je vous en parle, puis j'ai encore le poil des bras qui se lève, tu sais.
C'est dans la Belle et la Bête, je pense.
Non, mais c'est fou. Normand d'amour, je vais me tourner un petit peu vers vous, qui avez donc lu ce livre-là. Oui. On va écouter un premier extrait. Normand, ensuite, on va parler ensemble. Au début, c'est un Noël comme tous les Noëls dans une famille... nucléaire, comme on dit maintenant, où il n'y a de l'électricité, il n'y en a pas que dans les arbres, que dans les sapins, parce qu'évidemment, on attend impatiemment la venue du Père Noël.
Nat oublia qu'il était le grand frère et s'impatienta à son tour.
On va devoir attendre encore une heure et demie, s'écria-t-il.
Chaque fois qu'il s'énervait ou s'excitait, le jeune garçon bégayait. « Doucement, Nat, fais des petits paquets de mots et mets du vent dans ta voix, » lui dit sa mère. Il s'agissait là de trucs qu'on donnait à Nat pour l'empêcher de bégayer. Il prit donc une grande respiration et dit plus lentement
« Mais une heure et demie, c'est encore long !»«
On a de la chance, » lui rappela sa mère. Chez certains enfants, le Père Noël passe encore plus tard, parfois même à minuit. On pourrait jouer à un jeu de société, proposa Papa Pat, qui terminait son second morceau de gâteau. Papa Pat était un maniaque de jeux de société. Il en achetait régulièrement au grand découragement de son amoureuse, Mère Sof.
« On joue au colon de Catane !» proposa Rome. « On joue à Scotland Yard !» lança Nat. « Non, au colon de Catane !»« Non, à Scotland Yard !»« Je l'ai dit en premier, mais c'est moi le plus grand !»
J'imagine, Normand, que c'est parce que vous vous connaissez tous les deux qu'il a fait de Papa Pat un fou de jeux de société.
Oui, il était déjà, mais c'est en se rencontrant quand on a fait 51-50 rue des Ormes. Ouais. Patrick était souvent sur le plateau, puis moi j'achetais des jeux presque à toutes les semaines à ce moment-là. Puis il a dit « Ah, toi aussi t'aimes ça les jeux de société » et je l'ai invité à ma fin de semaine de jeux de société avec mes amis de l'époque et depuis ce temps-là. On ne se lâche pas, et là, on se lâche un peu ces temps-ci parce qu'on n'a pas le choix.
Ouais. Ben oui, c'est clair.
On ne fait pas une ou deux games par semaine. On fait de l'urticaire.
Oh non, à ce point-là. Vous avez dû, Normand d'Amour, vous amuser comme un fou à lire 7 comme 7 heures.
Hein? Ben oui, absolument. Puis c'est drôle parce que c'est une drôle de coïncidence parce qu'auparavant, quelques semaines auparavant, j'avais fait écho balado qui était écrit aussi par Patrick dans cette veine-là du son. Alors, j'ai adoré faire ça parce qu'on m'a dit encore du Patrick. Fait que c'était génial. Puis je me suis vraiment laissé aller par son histoire. Je l'avais lu une couple de fois avant de la lire. Puis, j'ai fait OK. Il a vraiment réussi à plier un peu son talent vers les enfants, puis à faire en sorte que ça s'y très bien. Puis effectivement, je pense que les enfants qui écoutent ça vont certainement être captés par l'histoire parce que...
Et les adultes aussi.
Je pense que j'ai bien fait ma job.
Ah, absolument.
J'ai très bien écrit aussi.
Ah, c'est... Oui, non, non.
Moi, je suis allé écouter quelques extraits, puis ça marche très bien. Je suis allé écouter les extraits, surtout dans la cave, quand il y a plusieurs personnages méchants, on sait que Normand il est bon pour faire des personnages sombres et tout ça. Puis là, mais comment il va adapter ça pour les enfants? Puis je suis allé écouter ça, puis c'est vraiment très bien fait. Puis, je trouve ça d'autant plus fun. Moi, je me sens privilégié parce que Normand, c'est le seul qui a visité mes deux univers comme acteur. Il est allé dans mes trucs pour adultes avec 51-50.
Ouais,
et là, il est allé jouer dans mon univers pour enfants. Donc, je trouve ça le fun de le voir d'une sphère à l'autre comme ça.
Et qui a choisi la voix? Est-ce que c'est Patrick Sénécal qui a dit « Moi, je veux que ce soit Normand » ou ça s'est fait par...
Non.
Non?
Non, c'est moi qui lui ai appris même que je faisais ça.
Ben oui,
il n'était même pas au courant.
Il m'a appelé à un moment donné et il dit « Hey, tu vas faire t'es au courant de ça? » Il dit puis là, je dis « Non, de quoi? » Puis là, il m'apprend ça. J'ai fait « Ah ben non. » En fait, il m'a même dit « Hey, merci. » Je pense que tu m'as même dit « Non, merci d'avoir pensé à moi. » Puis je lui dis « Écoute, j'aimerais bien ça te dire de rien, mais j'y suis pour rien. » Mais c'est un très bel entente.
Alors,
je suis très content.
L'histoire, si vous me le permettez, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on ne parle pas d'un gros bouquin de 500 pages. Alors, je n'ai pas envie de tout dévoiler. Je voudrais que les enfants, évidemment, découvrent ça. Mais on peut quand même dire que, surtout qu'au moment où sera diffusée l'émission, Noël sera passé, mais il y a... Quand même, on peut dire 7 heures, le bonhomme 7 heures est dans le coup, la fée des dents également, le lapin de Pâques, en tout cas, il y a tous ces personnages-là, dont quelques-uns sont devenus des vraies brutes épaisses, et je n'en dirai pas plus, ni pourquoi, ni comment ça va s'arranger. Mais il y a une chose, par exemple, une idée que je voudrais déflorer, parce que je l'ai trouvée, mais tellement bonne, Patrick Sénécal, c'est lorsque, on est en page 33, on ne nage pas dans le sang, on nage dans du chocolat dans les rues. J'ai trouvé ça. Ah, c'est génial, ça.
Ben, c'était une manière, justement, de symboliser le sang. Évidemment, je ne peux pas faire ça. Ils ne peuvent pas frapper vraiment des monstres puis que j'écrive les tripes qui revolent puis le sang qui revole. Mais comme j'ai des petits monstres en chocolat, j'ai eu effectivement un malin plaisir à décrire que la chaîne du vélo est pleine de chocolat puis que le chocolat frise des pneus puis que Romy en reçoit. Bon. Alors, évidemment, les adultes voient que ça, c'est comme si c'était du sang, mais c'est du chocolat, alors tout passe.
C'est génial.
Puis même, je suis sûr que dans l'inconscient des enfants,
Normand?
Aussi, alors c'est...
Moi, ce que j'ai trouvé le plus beau de cette scène, c'est qu'au tout début, Le père de Romy, ben,
papa,
il faudrait que tu fasses ton vélo, j'ai enlevé tes deux petits roues, elle dit non, j'ai peur. Et quand elle, à un moment donné, elle se décide de foutre la volée au monstre de chocolat, elle embarque sur son vélo et parce qu'elle vainc sa peur, elle est capable de faire du vélo. Moi, je trouve ça, là,
c'est génial.
Ça pour moi,
ben oui.
C'est excellent.
Ouais. Et comment vous avez lu, comment vous avez lu les sprouts, comment? Comment vous avez lu ça, vous? Vous savez, à chaque fois qu'elle en écrase un...
Oui, scrooge, je ne sais pas, je n'ai pas été l'écouter.
J'ai fait avec un onomatopée, mais sonore.
Ah, excellent!
J'ai essayé de mettre le plus de jus possible bon. Chocolaté, mais c'est quand même assez difficile à interpréter.
T'as pas lu les lettres, là. T'as pas lu sprouch.
Non.
T'as vraiment fait les fonds.
Bon, alors, mes amis, Patrick Sénécal, Normand d'amour, on va entendre un autre extrait. Moi, hélas, je n'ai pas eu accès de chez moi aux caves et tout ça, et aux cages. Et, bon, mais j'ai quand même l'extrait. On revient juste après l'engueulade sur le jeu. Et là, le Père Noël tant attendu arrive.
Oui. Tadam! Le Père Noël apparut enfin dans un nuage de suie. Les enfants poussèrent des « Youpi! Youpi! » enthousiastes. « Voici tes biscuits, Père Noël, » lui dit Nat. « Et ton lait aussi, » ajouta Rome. Papa Pat et Mère Sof se tenaient à l'écart, collés l'un contre l'autre, attendris par ce beau spectacle. Le Père Noël, lui, examinait les deux enfants sans réagir, silencieux. Son regard était bizarre, comme si le vieil homme n'était pas de bonne humeur. Il tenait son sac sur son épaule, un sac qui semblait vide. « Tu n'as pas de cadeau dans ton sac, Père Noël ?» s'étonna Nat. Tout à coup, d'un geste large et brutal, le Père Noël balaya de sa grosse main les biscuits et le verre de lait qui volèrent en l'air et se répandirent sur le plancher. Les enfants en demeurèrent pétrifiés de stupeur. Mère Sof s'avança rapidement en demandant ce qui se passait. Aussitôt, le vieil homme la poussa dans le sapin qui s'écroula sur elle. « Mais arrêtez, vous êtes fous !» se fâcha Papa Pat. Il se lança vers le Père Noël dans l'intention de l'immobiliser, mais le vieil homme le leva littéralement de terre et le propulsa au loin comme s'il ne s'agissait que d'un simple sac de sable. Tête première, Papa Pat percuta le mur avec tant de force qu'il s'évanouit.
Eh ben oui. Eh ben oui, c'est ça le Père Noël version sonicale.
C'est ça, c'est pour nous, on, évidemment, l'adulte dit ça et trouve ça rigolo, mais pour un enfant qui croit au Père Noël, ça peut être assez terrifiant.
Ben, je comprends.
De voir que le Père Noël se met à attaquer le monde tout à coup,
je comprends.
C'est pas supposé. Là.
Alors, comme on parlera. C'est
l'ordre établi qui devient désordonné, finalement.
Alors, comme on parlera pas de l'histoire dans le détail, maintenant, on en sait déjà assez comme ça, je pense, je voudrais qu'on parle du dossier gasoline, parce que ça, j'ai trouvé ça tellement intéressant. C'est qu'en plus, il y a comme un élément d'enseignement didactique pour les jeunes, et, peut-être pour les futurs Stephen King et les futurs Patrick Sénécal. C'est vraiment intéressant. Parlez-nous de ça, ce dossier gasoline, Patrick Sénécal.
Ben ça, c'est beaucoup la maison d'édition qui fait ça, dans chacun des livres qui publiait dans cette collection-là, il y avait un dossier à la fin pour aider les professeurs à comment récupérer le livre et faire des activités avec le livre. Ça peut être sur le vocabulaire, ça peut être sur... comme là, ici, c'est comment qu'on écrit un thriller un peu, les éléments de peur. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas lu, mais est-ce qu'on parle aussi de d'où vient Satan, la bonhomme Satan?
Oui, absolument. Hein? Voilà, écoutez, il y a... qu'est-ce qu'un roman d'épouvante? Le bonhomme 7 heures, effectivement, d'où il vient, etc.
Il vient de Bond 7 heures, c'est ça, c'est super intéressant.
C'est ça,
Moi-même, j'ai appris des choses.
Oui,
parce que moi, mon but premier, c'était de remettre le bonhomme 7 heures à la mode, c'était de montrer aux enfants, regardez, nous, quand on était petits, là, il y avait quelque chose qui nous faisait peur, qui s'appelait le bonhomme 7 heures. Ouais. Parce que les kids de 8-9 ans, aujourd'hui, ils n'ont aucune idée c'est qui le bonhomme 7 heures. Fait que je trouve ça intéressant de ramener le bonhomme 7 heures.
Bien sûr.
Mais grâce à la maison d'édition, qui ont fait des recherches pour leur dossier, j'ai appris d'où ça venait, que ça vient... d'Europe, que c'était de Bone Setter, que c'était un espèce de une sorte de ramancheux qui faisait peur au monde parce que tu sais, il craquait les os tout. Donc Bone Setter, dans notre culture à nous, c'est devenu Setter, bonhomme Setter. Que c'est quand même très intéressant comme idée.
Absolument. Absolument. Ouais. Et alors, j'imagine que vous avez tout lu ça aussi. En normand, par exemple, il y a le vocabulaire. Ça, j'ai trouvé ça aussi tellement sympa de voir lorsqu'il y avait un mot qui est peut-être moins utilisé par les enfants. Je pense, par exemple, pulvériser, notes complètement détruites. Ce sont des notes que vous avez toutes lues, normand?
Oui, mais il y avait des annotations.
C'est ça.
Par contre, on ne pouvait pas, pendant que je faisais la narration, expliquer quel mot il allait dire quoi, mais ils sont mis en exergue, alors
voilà,
dans le
parfait.
Texte.
Voilà, bon. Parfait.
OK, fait qu'à la fin, Norm, tu lis aussi le dossier, tu lis aussi d'où vient le bonhomme sapeur et tout ça.
Absolument, je lis tout ce que vous avez écrit à la fin, oui.
Alors donc, Normand d'amour, vous savez comme moi maintenant qu'il nous a laissé sur une patte, notre ami Sonécal, parce que la fée des dents, que j'appelle la dentiste, on ne l'a pas revue, elle. Ça sent la suite, ça, Patrick Sonécal.
Je ne sais pas, il y a peut-être une suite éventuellement.
Mais en fait, j'ai fait, ça serait le fun, Norm, que si jamais il veut mettre le deuxième livre aussi, ça serait le fun que tu lis la suite. Ça s'appelle Madame Wanham. Fait que c'est une autre histoire avec Natera, mais au début, vous savez, un peu comme les James Bond, là. Les James Bond, il y a toujours au début des vieux James Bond, il y avait la fin d'une mission, là.
Ben oui, et puis la course-poursuite, voilà.
Exactement. Et là, ben, le deuxième tome finit un peu, commence, c'est-à-dire avec qu'est-ce qui est arrivé à la fée des dents, finalement.
Ah.
Et on règle ça au début du deuxième roman. Et après ça, c'est une autre histoire qui commence, une autre histoire d'épouvante avec Natera encore une fois.
Bon, et ce sera...
Mais oui, on sait ce qui arrive à la fée des dents dans le deuxième roman.
Bon, et ce sera certainement lu par Normand d'Amour. Du moins, c'est ce que les enfants...
Ben oui.
Vont souhaiter, ben oui. Normand, parce que... Et les adultes aussi, parce que j'ai lu énormément de commentaires sur des sites littéraires, et les adultes se sont fait avoir aussi par cette histoire-là. C'est génial! Ça doit vous faire plaisir, Patrick!
Oui, ben parce que j'ai beaucoup de lecteurs qui sont venus me voir dans les salons et qui ont dit « Moi, j'achète tous tes romans. » Fait que même tes romans pour enfants, je les achète et je les lis quand même. Fait que c'est très flatteur de voir qu'il y a des gens qui veulent même lire tes romans pour
voir. Parce qu'il reste toujours un enfant en nous, c'est sûr.
Ben oui. Normand d'amour.
Oui, tu as bien résumé ça. Je pense que oui. Je pense qu'à chaque fois que tu lis un thriller ou du suspense ou de l'horreur, il y a un côté kid là-dedans que tu vas avoir des sensations fortes. Fait que oui, l'enfant qui aimait l'histoire de peur quand il était petit, je pense qu'effectivement, il peut replonger là-dedans à travers ce genre d'histoire-là. Même à 40 ou 50 ans. Oui, c'est vrai.
Normand d'amour, j'espère bien que pour vous, ce n'est qu'un début, parce que le livre audio n'en est qu'à ses balbutiements, mais moi, comme beaucoup d'autres, je lui prédis de grimper énormément cette autre façon de lire, là. Donc, je suis convaincue qu'on aura l'occasion de vous réentendre, je l'espère. Est-ce que vous le souhaitez?
Je l'espère aussi. C'était une très belle expérience. Puis, je ne vois que du beau là-dedans, parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, ne peuvent pas lire, ont une mauvaise vision. Puis aussi, des fois, il y a des gens qui sont trop occupés avec leurs enfants.
Ben oui.
Mais ils peuvent le mettre en arrière, puis en même temps qu'ils fassent autre chose.
Absolument. Absolument. Ouais. Patrick Sonécal, merci beaucoup d'avoir participé une nouvelle fois. Et puis, ben, la prochaine fois que je vous retrouve, ça va être dans du... Ben dans du
Sonécal. En présentiel.
Oh, je déteste ce mot. Bon,
oui,
allez.
Oui,
allez, écoutez, comme vous n'êtes pas en présence, je vous embrasse. Hein? Voilà, je vous embrasse. Et je vous remercie pour votre beau boulot. Merci à vous deux. Salut.
Merci. Bye-bye. Bye-bye.
Dans l'oubli, les pupilles fidèles se réveillent éblouies. Au passage envoûtant de chaque mouvement, que je laisse en sillage à votre discrétion. J'en sorcelle vos pensées, flâneurs impatients. J'en miele vos esprits, éclaire vos blanches nuits. Regardez-moi encore une fois, regardez tout, je suis à vous. Ne détournez pas les yeux, vous ne trouverez. pas un profil dont la beauté se fane. De mon miroir émane le reflet de jouvence. Le temps est mon amant, me vénère en silence, recouvre d'atours, m'enveloppant cellophane. Je suis votre perdition.
Trio Barbecue, la chanson s'appelle Le Mirage. Alors, je vous rappelle que vous écoutez l'émission Des livres pleins les oreilles. C'est Clotilde Sey qui vous accompagne pour vous parler de ces livres audio, cette autre façon de lire pour les gens, comme le disait très justement un petit peu plus tôt Patrick Sonnecal, parfois qui peuvent faire deux choses en même temps. Bon, déjà, les hommes sont exclus. Non, j'ai pas dit ça. Mais non, voyons donc, je ne l'ai pas dit. mais c'est vrai. Quoi d'autre qu'un bon bouquin en faisant la cuisine, en faisant du jardinage, en conduisant. Ouais, c'est vrai, quoi qu'en conduisant, ça peut être... on ne sait jamais, hein. Peut-être plus pour le passager que pour celui ou celle qui conduit. Allez, restez avec nous. Claudia La Rochelle sera là dans quelques minutes. Merci. Des livres pleins les oreilles, la suite. L'année 2020, c'est fini en queue de poisson, c'est le cas de le dire, et je n'avais pas eu l'occasion de faire un retour sur cette année-là. C'est ce que je m'apprête à faire d'ici quelques secondes avec Claudia La Rochelle, qui est déjà au bout du fil. Et puis aussi avec Claudia, on va faire deux gros plans. Un gros plan sur le livre Koukoum, dont, oui, je vous ai déjà parlé à cette émission-là, mais ça vaut le coup qu'on en reparle, parce que c'est un livre exemplaire, moi en tout cas, que j'ai adoré. Et puis, on va parler de l'Ikabog, J.K. Rowling, j'imagine qu'on doit dire comme ça. Et ça aussi, c'est à vous mettre entre les oreilles, pardon, mon Dieu, je fabouille. Je dois dire que j'y croyais pas trop. Et puis, de ce que j'ai lu et entendu, j'ai trouvé ça pas mal fantastique. Et j'ai hâte que Claudia La Rochelle nous en parle, ainsi que de beaucoup d'événements qui se sont déroulés en 2020 et de, malheureusement, quelques disparitions qui ont émaillé cette année-là, qu'on va s'empresser d'oublier, non pas les gens qui ont disparu, mais l'année en question. Bonjour Claudia.
Bonjour Clotilde.
Alors écoute, je t'avouerai, donc tu sais que faut que je sois honnête avec toi, avec tous ceux qui nous écoutent, je n'ai aucune espèce d'idée de la date de diffusion de cette émission-là. À mon avis, ça devrait être le 21 janvier, mais comme je le disais tantôt à Normand Damour et à Patrick Sonécal, je suis quasiment la dernière ici dans les bureaux. Après, on ferme. Confinement oblige et fête et défaite oblige. Bon, alors donc, mais je pense que ce sera vers la fin du mois de janvier. Et j'ai été très surprise, Claudia, quand tu m'as dit « Ah, moi j'aimerais bien parler du dernier de J.K. Rowling, L'Icabog ». Parle-nous de ce livre.
Faut dire que moi, J.K. Rowling m'a jamais attiré. C'est en fait les Harry Potter là, de J.K. Rowling. J'étais à même de constater au début des années 2000 le phénomène J.K. Rowling, la fortune, l'histoire aussi pas facile de cette femme-là hein, qui a vécu de la violence conjugale, qui a vécu vraiment de la misère noire et qui s'en est sortie, extirpée d'une manière digne des contes de fées finalement, avec ses idées, avec sa plume. Elle doit ça à personne, c'est juste à elle qu'elle doit son succès. Et c'est ça que j'aime de l'histoire, donc ça c'est fascinant. Et là, ma fille a 7 ans et elle commence à découvrir J.K. Rowling, donc avec Harry Potter. Donc toute la série, elle a fini par lire Harry Potter à l'école des sorciers, là elle est dans les films. Donc ça m'amène à me plonger dans l'univers qui était pour moi l'univers d'enfant. Puis c'est pas que c'était rébarbatif, mais moi j'ai pas ce côté-là, le côté qu'ont certains adultes à adorer ce qui est enfantin puis juvénile. Ouais. Malheureusement, je dois avoir le cœur brisé ou être un peu trop cynique. Alors L'Icabog, par contre, non mais tu sais.
Non mais non, regarde, je ne fais pas de commentaires.
Je pense que tu comprends que là, tu sais.
Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends
alors,
tout à fait.
Mais formidable, c'est formidable ce qu'elle fait. Bon, elle est passée à travers un scandale dans les mois derniers.
C'est
elle
quoi,
avait commenté
ça?
Elle avait commenté un tweet où elle s'est fait traiter de transphobe parce que dans le tweet, il était question de les gens qui ont leur menstruation. Dans cet article, il était question des gens qui ont leur menstruation. Et elle avait dit, excusez-moi, c'est les femmes qui ont... Bon. Et là, il y avait eu toute cette histoire autour de la binarité et tout ça. Elle s'est fait traiter de transphobe. Elle est entrée dans la culture woke parce qu'on a demandé qu'elle soit cancellée. Donc, la cancel culture, on annule J.K. Rowling. Il y a eu tout un... Alors, il y a eu des protestations, des contestations. Elle a eu des lettres d'appui d'écrivains célèbres. Bon, blablabla. Tout ça pour dire que qu'on soit d'accord ou pas avec ses propos, qu'on la traite de transphobe ou pas, moi, je veux vous parler de L'Icabog, son histoire. Elle nous transporte dans le pays imaginaire, c'est le royaume de Cornucopia. C'est un royaume paisible, tout va rondement. Sauf qu'il y a une ombre au tableau, il y a L'Icabog, qui est un monstre mythique que certains prétendent avoir vu. Son ombre plane au-dessus du royaume. Puis un jour, pas mal déclenché par le roi Fred, qui est un roi du royaume, qui est un roi, on va le dire, un peu tata, qui est désireux de plaire, de rester au pouvoir, un peu narcissique. Et là, il va y avoir donc toute une série de mensonges, de malentendus, et le monstre est à l'ordre du jour. Et il défait complètement l'ordre qui régnait jusqu'alors au royaume. Alors, il y a dans cette histoire-là, on va avoir un roi, le roi dont je parlais, il y a ses sbires qui sont malicieux, il y a des gens qui travaillent pour lui, il y a une formidable pâtissière qui est précieuse pour le roi parce qu'il est gourmand, il y a des membres de l'armée, il y a les enfants. Tous ces gens-là sont impliqués dans la découverte du mythe de L'Icabog. Alors, on suit les aventures de ces gens-là dans leur royaume pour découvrir qui est L'Icabog, existe-t-il vraiment? Alors ça, c'est pour ce compte-là. On dit que c'est pour les 7 à 12 ans. Moi, je dirais plus que c'est pour les 10 à 99 ans. J'ai vraiment pris un plaisir à le lire. Est-ce que j'ai rajeuni? Peut-être, je me le souhaite. Mais je dirais que pour les bons lecteurs là, de mettons 10 ans, là, si le jeune est un bon lecteur et qu'il a 10 ans, il peut effectivement s'y plonger. Encore une fois, on a affaire à des héros qui sont des gens qui se sentent exclus, stigmatisés, marginalisés. Elle explore encore ses thèmes de prédilection, le sentiment des différents, étrangers à sa patrie, la lutte des classes, beaucoup la lutte des classes, notre rapport au pouvoir. Il y a même une question de fake news ici.
Ah.
Hein, il y a toute une question de, autour des fake news. Donc, elle conserve quand même un regard très lucide sur le monde moderne, sur l'actualité. Elle intègre l'actualité à cette tradition du conte, à la mythologie. J'aime ça de la façon dont elle organise sa pensée puis elle structure sa pensée. Elle parlait
et l'imaginaire. L'imaginaire, ouais. C'est un... Moi, en tout cas, de ce que j'en ai lu et entendu, mais je dis, mais c'est fantastique d'avoir tout ça en soi. Moi, ça m'émeut toujours. Ça me... Ouais. Mais écoutez, tiens, puisqu'on parle d'imaginaire, entre autres, moi, le petit extrait que j'ai nous amène à Chouville. Vous parliez de la pâtissière. On écoute.
Pensez, s'il vous plaît, au gâteau ou au biscuit le plus délicieux que vous ayez jamais goûté. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il aurait été une honte suprême de servir à Chouville cette chose-là. Si les yeux d'un solide gaillard ne s'emplissaient pas de larmes de plaisir lorsqu'il mordait dans un gâteau de Chouville, on jugeait que c'était un échec et on ne le refaisait plus jamais. Dans les vitrines des pâtisseries de Chouville s'empilaient les douceurs, songes de donzelles, nacelles des fées, et plus renommé encore, des espoirs du paradis qui étaient si délicieusement, si douloureusement exquises qu'on les gardait pour les grandes occasions et que tout le monde pleurait de joie en les mangeant. Le roi Porfirio, du royaume voisin de Puritania, avait déjà envoyé au roi Fred une lettre pour lui proposer la main de n'importe laquelle de ses filles en échange d'un approvisionnement à vie en espoir du paradis. Mais Crachinet avait conseillé à Fred de rire au nez de l'ambassadeur puritanien. « Ces filles sont très loin d'être assez jolies pour qu'on les échange contre des espoirs du paradis, sire », avait-il dit.
Oh, j'adore ça. Moi, je me laisserais prendre. Hein. Moi, j'écouterais ça sans aucun problème, absolument. Hein.
Oui, ben ce passage-là, il est particulièrement intéressant aussi, surtout si vous êtes gourmand, là, vous avez vraiment envie d'aller dévaliser la boutique de la pâtissière à Chouville, là, parce que ça donne faim. Non, pour vrai, puis oui. Ce que j'aime, c'est la couleur des mots, elle joue avec les sens, c'est savoureux comme écriture, il y a un parfum qui se dégage de son histoire, et tout ça est vraiment là, au rendez-vous. Pour vraiment nous divertir. C'est un moment de divertissement quand on plonge dans l'univers de J.K. Rowling. Donc, on oublie tout le reste. Et je pense qu'à ce moment, ça peut plaire aux adultes aussi. Là, t'sais.
Alors, puisqu'on parle de romans dans lesquels on peut se plonger, moi, j'ai une affection, je dirais, particulière pour Coucoum de Michel Jean, lu par Dominique Pétain. Cette grand-mère hein, qui nous raconte... Enfin, je vais vous laisser en parler, mais... moi, l'écriture de Michel Jean aussi m'a complètement abasourdi. Toutes les images, quand il parle du froid, on gèle. Quand il parle des rivières, on sent l'eau couler sur nous. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce que toi, t'en as pensé, Claudia.
Ben, moi, je dois dire qu'effectivement, d'ailleurs... Tu parles de Dominique Pétain qui en fait la lecture. Dominique Pétain aussi est d'origine autochtone. Oui. Donc, c'est intéressant. Puis d'ailleurs, quand il le dit, Michel Jean, que de plus en plus, il va falloir, et tant mieux parce que ça commence à se passer. Il y a eu ce déclic, il y a eu cet état de grâce quand il a vu Natacha Canapé-Fontaine dans l'Unité 9 incarner le rôle d'une détenue autochtone. Oui. Elle-même, Natacha Canapé-Fontaine, qui est autochtone. Donc, il a dit, il y a des choses qui sont en train de bouger. Oui. Il y a encore du progrès. Il est le seul journaliste d'origine autochtone qu'on voit à la télé. Mm-hmm. Donc, lui, il est un journaliste, un auteur innu, Michel Jean. Et il a remporté pour Coucoum le prix littéraire France-Québec 2020. Donc, ce livre-là, l'avantage quand on remporte ce prix littéraire-là, c'est qu'on a l'occasion de faire un tour du côté de l'Europe avec le livre. Les Français vont découvrir Coucoum, ils vont découvrir l'histoire. Donc, l'histoire qui s'inspire de la vie de l'arrière-grand-mère de Michel Jean, Almanda, une femme qui a choisi d'adopter le mode de vie de la communauté Innu parce qu'elle a épousé à l'âge de 16 ans Thomas Siméon. Thomas Siméon est devenu son mari et évidemment, bon, elle choisit d'adopter le mode de vie de la communauté Innu alors qu'elle est blanche. Alors, on imagine le choc de part et d'autre. hein? Et ouais. il raconte aussi comment sa mère, sa grand-mère aussi ont fait des choix contestables aussi elles-mêmes en étant inoues et en allant du côté avec des hommes blancs. Donc, ce que ça a fait, l'impact. C'est lui, Michel Jean, qui avait écrit sur les pensionnats autochtones dans le vent, en parle encore, un précédent roman. Et ça aussi, ça avait été accueilli avec beaucoup de stupeur et tremblement, permettez-moi l'expression, parce que c'est ça quand même.
Amélie Nothomb sort de ce corps.
Oui, c'est ça exactement. je deviens gothique avec le temps. Mais c'est ça, les pensionnats autochtones, ils avaient commencé un peu à creuser son terreau, à embrasser ce sillon de ses racines autochtones. Et à parler de ses aïeux, de ceux qui étaient là avant. C'est vrai que Michel Jean, il le dit lui-même, il dit, au Québec, l'histoire, on dirait que ça commence en 1492 avec Christophe Colomb, puis en 1534 avec Jacques Cartier, comme si avant, ceux qui étaient là depuis 15 000 ans, ils n'existaient pas, n'avaient rien fait, n'avaient pas apporté leur tradition, leur culture, leurs mœurs. C'est ça aussi, puis c'est ce qui peut changer la donne un peu et probablement le paysage culturel, l'histoire qu'on fait du Canada, de notre histoire, grâce à des auteurs comme lui, mais des auteurs comme Joséphine Bacon, Natacha Canepé-Fontaine, on les connaît, Naomi Fontaine et Marie-André Guild, c'est vraiment des écrivains autour de nous qui contribuent à changer un peu l'histoire qu'on se fait de nos origines et de notre pays. Je sais que vous l'avez lu, que vous l'avez aimé, et que tu l'as aimé, Clotilde.
Mais tu sais, en plus, que Claudia, c'est terrible, mais cet aveu que je fais, que j'ai déjà fait, que je vais refaire souvent, mais l'espèce de honte, moi, que je porte sur les épaules, c'est que, bon, moi, je suis européenne, c'est clair, mais quand on est jeune, on joue aux cow-boys et aux Indiens. Ici, je ne sais pas, mais chez nous, on joue aux cow-boys et aux Indiens. Ouais. Évidemment, personne ne voulait être les Indiens parce que c'était les méchants. Non, mais tu te rends compte déjà comment...
Ben oui.
Et c'est en arrivant ici que moi, j'ai fait, voyons donc, c'est... Ah, puis, et je suis... j'arrive pas à trouver mes mots, je pense que je dois être un petit peu fatiguée, je sais pas, mais l'écriture de ces auteurs-là, dont tu as cité les noms, et j'oublie celle aussi merveilleuse, elle s'appelle L'Éveillé, qui a écrit Nirlit.
Oui, Nirlit. C'est Juliana.
Juliana. Parce que la paix qui émane de ces peuplades-là, tu sais, quand on pense que le mot guerre n'existe pas, quand on pense que on a tellement de leçons à apprendre de, je sais pas si je me fais bien comprendre, je pense que je suis un petit peu confuse, mais
pas du tout. On a des leçons, mais oui, tout à fait. Non seulement on a des leçons à apprendre d'eux, mais la transmission a été réussi. On transmet déjà des choses qui nous viennent d'eux, ne serait-ce que parfois des remèdes, des rituels. Il y en a, tu sais, je veux dire, il y a ça, puis c'est important qu'on s'en rende compte de ces richesses-là, de ce qui était là avant nous. Alors,
Mais je parle aussi du pacifisme et de l'humanité, parce que par exemple, et on le sent bien dans Koukoum, l'histoire d'amour entre cette blanche et cet indien, entre eux, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un choc. Oui, il y en a un, mais je veux dire, tout se passe en douceur, tout se passe. Moi, il me semble qu'on est constamment dans un canoë, tu sais, puis qu'on entend la rame, et tout se passe, et tout est tranquille. C'est ça l'image que j'ai. Et en cela aussi, on a des choses à apprendre, on est tout le temps en train de courir, on est tout le temps en train d'haïr, de médire.
L'amour de la terre aussi.
L'amour de la terre, c'est énorme, en tout cas.
Et,
écoute, ouais. Claudia, j'avais donc diffusé un extrait de Koukoum, je voudrais qu'on le réentende ensemble.
Ben oui.
De mes parents, je ne conserve aucun souvenir. J'ai souvent essayé d'imaginer leur visage. Mon père était grand, costaud et résolu. Il avait des mains puissantes. Ma mère était blonde, avec des yeux bleus comme les miens. Elle avait des traits fins, elle était chaleureuse, aimante. Bien sûr, ces deux personnes n'existaient que dans mon esprit d'enfant. Qui sait à quoi ressemblaient mes géniteurs en vérité? Peu importe, en fait. Mais j'aime croire que la force et la douceur les habitaient. J'ai grandi auprès d'une femme et d'un homme que j'appelais ma tante et mon oncle. J'ignore s'ils m'ont aimée, mais ils ont pris soin de moi. Ils sont morts il y a longtemps, et la maison au bout de la rivière à la chasse a brûlé. La terre, par contre, est encore là. Les champs prennent toute la place maintenant. Les fermiers, accrochés à leur lepin, encerclent désormais Pequakami. Le vent se lève et vient lécher mon visage usé. Le lac s'agite. Je ne suis qu'une vieille qui a trop vécu. Toi au moins, mon lac, ils ne peuvent rien contre toi. Tu es immuable.
Ah là là, puis la voix de Dominique, tout ce que ça transporte,
c'est... Ah, elle est bonne, c'est fou.
Ouais. Ah, c'est vraiment très, très joli. On a pété les 15 minutes, puis tu sais quoi, Claudia, on s'en fout.
Ok.
Personnellement, je m'en fiche. Moi, oui, non, parce que j'aimerais ça qu'on revienne un petit peu sur cette paix, point de suspension d'année 2020. Qui n'a pas été calme non plus pour le milieu littéraire. Hein. Ça n'a pas été évident.
Ben écoute, on va commencer avec la moins bonne affaire. Puis après ça, je vais quand même... Il y a des bonnes nouvelles qui dégagent de ça. Puis après ça, on va y aller avec des décès rapides.
D'accord.
Mais est-ce que je peux... Ça te va comme ça?
Ça me va très bien.
Du consentement de Vanessa Springora, qui est quand même l'affaire... Ouais. En fait, il y a une bonne nouvelle, c'est que le livre est excellent. Mais l'histoire que ça sous-tend, ça, c'est moins excellent. Le consentement, c'est le livre qui est arrivé au début de l'année, en janvier, je pense, 2020, ou février, mais avant la pandémie. C'est arrivé comme une tonne de briques, une bombe littéraire. On s'attendait pas à ça, personne. En Europe, c'est fou les réimpressions qu'il y a eu. Vraiment, parce que, bon, Vanessa Springora, d'abord, c'est pas tout le monde qui la connaît. Elle est née le 16 mars 1972 en France. C'est une éditrice, une écrivaine, une réalisatrice française. Et donc, le consentement témoigne de sa relation qu'elle a eue avec l'écrivain Gabriel Matzneff alors qu'elle avait 14 ans. Elle a présentement 47 ans et dans ce livre-là, elle témoigne de ce qu'elle a vécu, la façon dont elle a été emprisonnée sous le joug de cet homme-là qui se vante depuis des années d'aimer les enfants. Il fait l'apologie de la pédophilie. Là,
absolument.
Absolument, et c'est dégueulasse.
C'est dégueulasse.
Et très longtemps, il a fallu que... Il s'est fait remettre à sa place par une Québécoise qui s'appelle Denise Bombardier à l'émission Apostrophe.
Oui.
Et c'est jouissif de l'entendre, mais il pouvait raconter des horreurs. Ouais. Personne ne levait le petit doigt pour s'indigner. Et dans ce livre-là, donc, c'est très bien structuré. Hein. D'abord, c'est très bien écrit. Il y a une structure implacable, donc une mécanique implacable. Elle installe son sujet, donc les conditions dans lesquelles elle vivait au début des années 80, donc dans un Paris intellectuel, les écrivains avaient la cote et ce qu'ils racontaient aussi. Ensuite, en deuxième partie, elle raconte la prise de possession de Matzneff, la façon dont il a pris possession d'elle. La relation qu'elle avait avec ses parents, avec sa mère. Et dans la troisième partie de ce livre-là, c'est l'essai, c'est la réflexion post-mortem. Qu'est-ce qui l'a amené à prendre la parole, à se raconter de cette manière-là? Et comment le piège des livres qui se referme sur elle, sur son intimité, comment ça a été violent, plus que n'importe quoi, plus impudique aussi.
Merci.
Parce que, bon, il a parlé d'elle dans ses livres aussi. Alors, elle le prend au piège de la même manière que lui prenait au piège ses victimes. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant dans la mécanique du consentement. Un livre à lire absolument.
Ou à écouter, tu sais, parce qu'il existe en audio. Oui. Hein, on en avait parlé d'ailleurs, et ça me fait très plaisir aussi, oui. Ouais.
À écouter, oui, certainement. Et c'est un livre qu'elle a commencé à rédiger bien avant l'affaire Weinstein. Donc, ça aussi, c'est intéressant. On est dans cette vague de dénonciation, une vague qui va se poursuivre. On le voit, on l'entend dans les médias actuellement. Et c'est une vague qui se poursuit aussi avec les parutions de 2021 qui vont venir. Alors, voilà pour le consentement. Bon. Sinon, ben, il y a des bonnes nouvelles à travers tout ce qui
oui.
se passe.
Oui, écoute, il nous reste 7 minutes et je vais te mettre au parfum. J'ai fait un petit montage parce que je voudrais qu'on évoque la mort de John le Carré et j'ai un petit montage qui dure combien de temps, je ne me souviens plus. Oh mon Dieu, il dure 5 minutes et on regarde, j'aurais jamais le temps de diffuser ça. C'est pas grave, alors parlons-en. Alors, les bonnes nouvelles, ma belle Claudia.
Ben non, mais je vais aller vite. C'est juste
non,
pour
non, vas-y.
Les ventes de livres sont en hausse dans les librairies du Québec. Alors, ça, c'est tout récent. Ces données-là viennent de sortir dans les librairies indépendantes du Québec. Ça va très bien. Un petit miracle à travers la pandémie. Une hausse de 8,2% des ventes par rapport à la même date l'année dernière, la même période plutôt. Et il y a un beau dossier dans l'actualité à ce sujet-là où on raconte que donc les livres sont en hausse, les ventes de livres sont en hausse dans les librairies du Québec. Il y a un libraire qui s'appelle Eric Blackburn, qui est le copropriétaire de la librairie Le Port de Tête. Oui. Il dit que ça lui rappelle quand il était libraire au 11 septembre 2001. Hum. Il disait qu'il y a des périodes comme ça où le livre vient au secours de l'humain quand on traverse des ondes de tempête et c'est quelque chose qui est remarqué effectivement dans d'autres endroits du monde aussi. Le livre, on ne sait plus à quel fin se vouer, on est en perte de rituel. Le livre est souvent un bon accompagnateur, un complice pour traverser ces moments-là.
T'as raison, alors, t'as raison. Et le livre audio, je sais pas que je vais ramener ça toujours à ça, mais vu que mon émission est consacrée à ça, et le livre audio aussi a fait des gains. Les gens, de plus en plus, prennent cette habitude-là. C'est pas encore gagné, mais on va y arriver. Il y a quelqu'un...
Le livre audio, c'est fou, il y a vraiment quelque chose...
Ah, il y a un engouement, bien sûr.
De quoi? Il y a un engouement, effectivement.
Il y en a une qui n'a pas encore été enregistrée, mais qui va l'être, c'est sûr. C'est cette première Québécoise, quand même, à remporter le prix Renaudot pour les villes de papier. Dominique Fortier, c'est chouette, ça.
Dominique Fortier a remporté le Renaudot, donc c'est la première Québécoise, la cinquième femme à remporter ce prix prestigieux. De plus en plus, nos écrivaines, Emily Dickinson est à l'honneur dans les livres de papier, un livre qui est paru chez nous l'année dernière et qui l'a revu en France grâce à cette deuxième parution chez Grasset. Nous, c'était paru chez Alto, qui fait toujours des petites merveilles. Mm-hmm. Et elle entre dans la foulée de ces grandes écrivaines québécoises qui se démarquent à l'étranger, surtout en Europe. Il y en a d'autres qui font jaser. Je pense à Mireille Gagné avec le Lièvre d'Amérique. Elle est dans les palmarès des Inrocks, du Nouvel Obs. Elle fait parler d'elle. Mm. Marie-Ève Thuot aussi pour La trajectoire des confettis a fait beaucoup parler d'elle en Europe. On a le beau Kevin Lambert aussi. Je parle comme une matante, le beau. Mais pour vrai, c'est un charmant jeune homme, brillant. Et lui aussi se distingue beaucoup à l'étranger, en France, avec ses écrits. Donc, on fait jaser nous. On a de grandes pointures ici.
Oh, mon Dieu, oui. Je n'arrête pas de le dire. On a des plumes ici incroyables. Et puis, malheureusement, il y a des plumes qui ont cessé d'écrire. Hein. Ah ouais. Triste année. Ça a commencé avec Mary Gings Clark.
D'ailleurs, j'ai commencé à lire mes livres d'adultes avec elle, avec Claire Prétéchère aussi le 10 février.
Oh là là.
Une tristesse. Oui, elle est l'illustratrice, autrice de BD française. Ouais. Albert Uderzo aussi, le papa d'Astérix et Obélix, qui vient de sortir d'ailleurs une BD, si ça vous intéresse, Le Menhir d'or.
Oui.
Marguerite Lescope, morte de la COVID à 104 ans au mois d'avril. Il y en a eu de la COVID aussi qui sont décédés. Luis Sepúlveda, l'écrivain chilien qui a écrit Le Vieux qui lisait des romans d'amour.
Oui.
À 70 ans. En juin, il y a eu l'écrivain espagnol Carlos Ruiz Zafón.
Ruiz Zafón. Et en ce moment, d'ailleurs, moi, ça me permet, par exemple, je l'ai remis sur ma table de nuit parce qu'il y avait des bouquins que je n'avais jamais lus de lui, que j'avais dans ma bibliothèque, mais que je n'avais jamais lu. Alors là, je suis dans Marina, puis voilà. J'aime. Oh, puis on peut, Mafalda qui a perdu son papa aussi.
Oui, Kino, qui est décédé le 30 septembre à 88 ans. Il y a eu le poète québécois Claude Beausoleil aussi qui a créé des générations de poètes, d'écrivains. Il enseignait, lui, au cégep Édouard Montpetit à Longueuil. On pense à Charles-Henri Flammarion, un éditeur français.
Oui.
Flammarion, c'est lui, ça.
Ah, ça, j'ignorais.
Ouais,
et puis John le Carré. John le Carré. Oui. Ça, là, ce qui est intéressant, c'est que on saura jamais finalement si ce gars-là avait été un menteur génial ou si vraiment il avait été l'espion qu'il prétendait être. Hein. C'est fou ça, parce que il a dit oui, allez-y, vous allez trouver toutes les preuves. Et puis il y a des gens qui avaient été mandatés et qui n'avaient jamais rien trouvé, quoi. Alors oui, il a été pendant quelques années, il était dans le MI6, ça c'est sûr, à Londres, en Angleterre, mais de là avoir fait une grande carrière comme espion, pas vraiment, mais on s'en fout parce que ce qu'il a écrit, par exemple...
Il parlait très bien français, hein? Oui. Très bien français, donc ça, parfois, ça caractérise les espions dans plusieurs langues.
Ça, c'est vrai. Claudia, c'est sûr que c'est une chronique qu'on aurait aimé qui soit diffusée à la fin de l'année. Ça n'avait pas été possible, ça fait rien. On a fait ça en début 2021, bien sûr. Merci, aujourd'hui, je t'ai retrouvée petite enfant, je t'ai retrouvée gothique, je t'ai retrouvée en tout cas plein de choses différentes. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est toujours très agréable qu'on passe un moment ensemble. Oui, il y a eu moins d'extrêmes, mais je pense que c'était important qu'on fasse le tour, parce que le virus a pas aidé non plus dans les librairies. Je te remercie de nous avoir remonté le moral en nous disant que malgré tout, le nombre des ventes avait peut-être pas explosé, mais en tout cas avait pris du gain, ça c'est certain. Alors merci pour ce que tu es, merci de faire partie de cette émission et j'espère qu'on se retrouvera en 2021.
Je vous souhaite de vous en mettre plein les oreilles. Au revoir.
Salut Claudia. Salut.
Bye.
Alors voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission du 21 janvier 2021. Peut-être, qui sait, sinon un autre jeudi. Merci à Normand Damour, Patrick Sonécal et Claudia Larochelle d'avoir été mes invités. Et merci à Maurice Bolduc de m'avoir épaulé à la technique. C'était Clotilde Seille qui réalise et anime cette émission des livres plein les oreilles et qui vous dit à bientôt.